Europe 1. Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comme chaque après-midi, on réunit trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser. Ils ont vécu à des époques différentes, mais ils ont un point commun.
Aujourd'hui, celui d'avoir mené leur barque selon cette célèbre maxime, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Oui, la célèbre formule prononcée par le révolutionnaire Danton, notre premier personnage du jour, mais compte tenu de l'actualité, c'est un autre audacieux qui invite dans notre émission aujourd'hui le président Valéry Giscard d'Estaing, décédé hier soir à l'âge de 94 ans, appartient désormais à l'histoire. Et quelle histoire ! Un président moderne et audacieux qu'on va aussi vous raconter aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'il était plus audacieux qu'il ne le laissait paraître, et Dieu sait que ce n'est pas facile de forcer sa nature, d'aller parfois à l'encontre de ses principes, mais l'audace exige ce genre de contorsion, comme la fois où avec les copains on avait essayé de vous faire prononcer à l'antenne des expressions très imagées signifiant aller à la selle. Ce jour-là par exemple, c'était vous aviez manqué d'audace, voyez.
Je les ai sous les yeux, mais je ne peux pas les dire. J'ai une réputation d'élégance à tenir.
Démouler un cake, peut-être.
Je ne peux pas.
Avoir la taupe au guichet aussi.
Je ne peux pas.
N'est pas audacieux qui veut. Eux le sont, Stéphane.
Oui, oui, Mathieu. Nos personnages du jour n'avaient pas froid aux yeux. Après Danton, dans un tout autre genre d'audace, je vous raconterai le destin de Louise Weber, danseuse de la Belle Époque restée célèbre sous le nom de la Goulue. Quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez les exploits vertigineux d'un audacieux contemporain.
Oui, c'est quelqu'un qui, contrairement à vous, Stéphane, a su vaincre ses peurs. Il souffre en effet de vertige. Et bien pourtant, ça n'a pas empêché Alain Robert de devenir le Spider-Man français.
Et avec nous, nos super-héros de l'histoire, des modèles d'audace comme on en fait peu. Et aujourd'hui donc, actualité oblige, Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous entraînez dans l'intimité d'un grand de ce monde qui vient de nous quitter, Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, bien sûr Stéphane. Alors, la petite histoire retiendra sans doute plus volontiers de Valéry Giscard d'Estaing qu'il fut un homme à femme. Mais la grande retiendra surtout qu'il fut de tous nos présidents de la République celui qui aura fait le plus pour améliorer la condition féminine. Et je crois qu'avec sa disparition, les femmes qui sont en âge d'avoir connu son septennat se souviennent aujourd'hui avec gratitude de ce président qui voulut changer la donne, notamment en nommant plusieurs femmes ministres et en créant un secrétariat à la condition féminine. Donc à cet égard, vous l'avez bien dit Stéphane, je crois que Valéry Giscard d'Estaing a toute sa place dans une émission qui célèbre l'audace.
Quand a-t-on inventé d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing? C'est une bonne question. Lui, il remonte aux origines d'une invention, d'un objet. Comment ça va, David Castello-Lopez?
Mais ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un matériau du diable, qui est le cellophane.
Ah, le cellophane?
Ouais, ouais, ouais.
Et ça a été inventé, ça, le cellophane?
Ça a été inventé,
ah oui, ça
le cellophane.
Pas,
hein. Exactement. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas les cellophaniers. On en apprend vraiment tous les jours dans cette émission. Nous découvrirons l'origine du cellophane.
Et puis alors, on va pouvoir se régaler avec une crème qui nous ramène au temps de Louis XV, n'est-ce pas, Olivier Pouls?
Ah ben oui, exactement, mon cher Stéphane. Il va s'agir de la délicieuse crème du Barry.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le raffinement absolu. Vous verrez, il vous faut un petit chou-fleur quand même.
Ah, vous ne connaissez pas la crème du Barry?
Je pensais que c'était une crème anglaise. Eh ben, je crois que j'en ai jamais goûté.
Oui, mais il faut un peu d'audace, voyez-vous, Mathieu.
Mais j'en manque cruellement. Enfin, justement, il vous en faudra de l'audace pour vaincre enfin Clémentine Portier-Kaltenbach dans ce jeu dangereux qu'on appelle Burn to be Alive. Un quiz, évidemment, entièrement consacré aujourd'hui à Valéry Giscard d'Estaing. Stéphane, vous l'avez rencontré?
Ah oui, de nombreuses fois, bien sûr. Encore, il n'y a pas très très longtemps. Et puis, il appelait de temps en temps pour donner son avis sur un article. Il aimait l'histoire et le patrimoine, donc j'avais souvent l'occasion. Mais vous savez, j'étais membre du conseil d'administration de la fondation qu'avait créée son épouse Annemone Giscard d'Estaing, la Fondation pour l'enfance. Donc oui, chaque année, je le voyais pour le gala
d'anniversaire. Vous avez de bien le connaître. Oui. Je pense que vous partez avec un avantage indéniable pour le quiz. C'est peut-être votre jour de chance.
Non, parce que moi, je l'ai connu mondainement. Vous en fait, il faudrait mieux le connaître historiquement.
Oui, Mathieu et moi, nous l'avons connu constitutionnellement.
Vous l'avez connu bibliquement.
Des scoops, non, beaucoup de scoops aujourd'hui, visiblement, dans Historiquement Vôtre. Mais tout d'abord, on découvre notre premier audacieux du jour, emblématique lui aussi de notre histoire nationale, le révolutionnaire Danton.
Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Pour vaincre les ennemis, messieurs, il nous faut de l'audace. Encore de l'audace. toujours de l'audace et la France est sauvée. Quand ces mots résonnent dans la salle du manège, un tonnerre d'applaudissements traverse les bancs de la législative. Quelques minutes plus tôt, le ministre Georges Danton est apparu à la tribune dans sa redingote rouge. De sa voix tonitruante, le colosse d'1m90 a exhorté la population française au sursaut. Nous sommes le 2 septembre 1792 et plus que jamais, les ennemis de la patrie menacent la révolution. Au mois d'avril, la France a déclaré la guerre à l'Autriche. Et depuis ce matin, la nouvelle circule dans Paris, les armées austro-prussiennes ont fait tomber Verdun. L'ennemi marche vers la capitale. On se met vite en état de siège, mais ce n'est pas le seul péril qui court, car la rumeur enfle dans les rues parisiennes. Une mutinerie contre-révolutionnaire se préparerait dans les prisons. Il faut dire que les partisans du roi Louis XVI ont du souci à se faire. Le 10 août, des insurrections populaires ont entraîné la chute de la monarchie constitutionnelle. La République est à portée de main. Mais à cet instant, les patriotes doivent agir. Et le triple appel à l'audace lancé par Danton est entendu par-delà les murs de l'Assemblée. Dehors, le tocsin retentit et alors qu'on ferme les portes de la ville, les citoyens s'arment de fusils et de piques, prêts à en découdre. La justice populaire est en marche. 3 semaines plus tard, la bataille de Valmy entraîne le retrait des troupes ennemies. Le lendemain, la République est proclamée. L'audace aurait-elle sauvé la France? Eh bien, c'est une vaste question sur laquelle je vous laisse disserter, car il nous faut maintenant revenir en arrière et plonger dans le parcours de Georges Danton. L'histoire de ce géant de la Révolution commence dans la France des campagnes, dans une famille de la petite bourgeoisie établie à Arcy-sur-Aube. À 20 ans, le jeune ambitieux plie bagage et quitte sa Champagne natale pour gagner Paris par la malle-poste. Il n'a pas un sou en poche, mais le voilà clerc chez un procureur de l'île Saint-Louis. À ce moment-là, on ne peut pas assurer que son avenir sera brillant, mais Danton a dû entendre quelque part que la fortune souriait aux audacieux. Alors, audacieux il sera. Bon, peut-être faudrait-il aussi le qualifier d'opportuniste. Après un départ express pour Reims, où il a passé le barreau, Danton, maintenant avocat, revient à Paris. C'est là qu'on lui recommande de devenir avocat au conseil du roi. Soit la crème de la crème, l'élite de la profession judiciaire. Mais sans argent, difficile de racheter un office. Alors, un mariage pourrait peut-être arranger ses affaires. Précisons ici que ce colosse au cou de taureau est franchement laid. Car un taureau, justement, lui a fendu la lèvre quand il était enfant, avant qu'un autre ne revienne à la charge pour lui écraser le nez. Et comme si cela ne suffisait pas, une variole sévère a laissé de terribles stigmates sur son visage. Mais vous le savez, Mathieu, la beauté ne fait pas tout.
Je ne vois pas pourquoi je le sais, mais enfin bon, je prends la pique.
Vous êtes beau,
bien sûr.
Moi j'ai le charme des laits. Et Danton parvient à séduire ces dames par sa prestance sans pareille. Il épouse alors Gabrielle Charpentier, la fille d'un aubergiste limonadier.
Ça veut dire qu'il faisait de la limonade ?
Aubergiste limonadier, c'est quand vous serviez à la fois, vous pouvez dormir dans son auberge et en même temps vous servez à boire.
Alors. Ah mais ça vient vraiment de limonade, j'ai dit ça pour...
Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais vous avez des blagues audacieuses, mais qui sont pleines de vérité, Mathieu. Grâce à la dot du riche beau-papa, je parle de l'aubergiste limonadier, plus quelques prêts savamment négociés, Danton rachète l'office. Le voilà qui signe Maître Danton. Mais attention, D'. En pleine ascension sociale, le petit bourgeois de province s'autorise maintenant une particule nobiliaire. Nous sommes alors en 1788, aux quatre coins de la France, la Révolution couve. Le 14 juillet 1789, quand la Bastille est prise d'assaut par une foule de Parisiens en colère, l'avocat Danton rate le coche. Ce jour-là, on ne l'a pas vu aux abords de la prison. Mais saisissant vite l'ampleur des événements, notre homme est traversé d'un élan patriotique. Dès lors, Danton se distingue dans sa circonscription électorale, le fameux district des Cordeliers. Dans ce quartier de la rive gauche, les habitations regorgent de révolutionnaires en herbe. Alors au café Procope, ou dans les assemblées, il n'est pas rare de voir Danton débattre avec ses nouveaux alliés, parmi lesquels Camille Desmoulins, Jean-Paul Marat ou Fabre d'Églantine. Et dans ce petit club d'agitateurs, Danton donne de la voix. Il s'est découvert l'âme d'un véritable tribun. Ses discours, il les improvise toujours et bientôt, sa popularité dépasse les frontières du quartier. Sa carrière politique est lancée, elle s'entremêle aux événements qui secouent la France. En juin 1791, Louis XVI, qui a bien senti que les choses ne tournaient pas en sa faveur à Paris. Prends le chemin de Varennes, on l'a raconté, c'est la fuite manquée. Danton réclame la déchéance du roi. C'est le premier revers, car sa pétition a certes rassemblé les foules, mais nombreux sont les révolutionnaires qui se sont fait massacrer sur le champ de Mars. C'était moins une pour le patriote qui aurait pu se faire arrêter. L'été d'après, suite à la prise des Tuileries qui a renversé la monarchie, Danton se retrouve en fonction place des Piques. Il a été nommé haut la main ministre de la Justice par la législative. Le mois suivant, il se fait élire député de la Convention et siège du côté des radicaux, j'ai nommé les Montagnards. Le 21 janvier 1793, quand le roi perd la tête, Danton a voté pour la mise à mort du tyran. Mais alors que la République est proclamée, les premières divergences apparaissent du côté des Montagnards et vous allez voir que Danton va en subir les conséquences. Sur le chemin de Danton, il est un autre personnage incontournable de la Révolution, Maximilien de Robespierre, qui va lui causer quelques soucis, et c'est un euphémisme, Mathieu. Pourtant, ces deux-là ont longtemps été frères de Révolution. Enfin, jusqu'en 1793, où là, rien ne va plus. Puisque la jeune République est menacée de toutes parts, on crée le Comité de Salut Public. Et quand Robespierre, un brin paranoïaque, l'intègre pour semer la terreur, Danton aurait tort de ne pas s'inquiéter. Sous l'incorruptible, pas de pitié pour les adversaires présumés de la République. Sauf que Danton est vite accusé d'en être un. Alors bientôt, sa voix puissante résonne dans le tribunal révolutionnaire. Danton, partisan de la royauté, c'est une grotesque farce. Ses actes et ses discours le prouvent. Et pourtant, il ne se fait aucune illusion sur le sort qui lui est réservé. Alors à ce tribunal qui lui demande de décliner son identité et son adresse, il répond avec l'aplomb qu'on lui connaît « Ma demeure sera bientôt dans le néant et mon nom vivra dans le panthéon de l'histoire. » Danton a vu juste. Après 4 jours de procès, le verdict tombe. Lui et ses co-accusés sont condamnés à mort. Sur le calendrier révolutionnaire, nous sommes le 16 germinal de l'an 2, c'est-à-dire le 5 avril 1794. En fin d'après-midi, les prisonniers quittent les geôles de la conciergerie. Les voilà rassemblés dans des charrettes pour un trajet funèbre qui les conduit place de la Révolution. Là-bas, le couperet de la guillotine étincelle. Samson, le bourreau professionnel de père en fils, est prêt à faire tomber des têtes. Et Georges Danton les voit tomber une à une. Après son ami Camille Desmoulins et une douzaine d'autres condamnés, il est le dernier à monter sur l'échafaud. Alors qu'il présente son coup de taureau à la lame tranchante, le révolutionnaire de 34 ans n'a rien perdu de sa verve ni de son audace. Sa dernière phrase s'adresse au bourreau. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Et l'histoire raconte que sur le chemin qui mène Danton vers la Faucheuse se trouve une maison abritant Robespierre. Devant celle-ci, on entendit le condamné lancer une sombre prédiction à son ancien allié. « J'ouvre la fosse, tu m'y suivras. » Il a vu juste une nouvelle fois. 3 mois plus tard, Robespierre perdait la tête à son tour.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Danton, il nous fallait un invité audacieux. Nous l'avons trouvé en la personne d'Hervé Levers, qui a eu l'audace de s'intéresser à un personnage dont il est souvent difficile de discerner la légende de la réalité. Bonjour Hervé Levers.
Bonjour.
Bonjour Hervé Levers. Vous êtes historien spécialiste de la Révolution française, professeur à l'Université de Lille, et vous avez effectivement dirigé avec Michel Biard l'ouvrage « Danton, le mythe et l'histoire » paru chez Armand Collin. Chez Danton, il est vraiment difficile de discerner la légende de la réalité. Pourquoi au fond les historiens ont-ils autant de mal à se mettre d'accord sur ce personnage qui pourtant est essentiel dans la Révolution ?
C'est justement parce qu'il est essentiel et parce qu'il représente encore quelque chose aujourd'hui et parce qu'il a représenté au cours du 19e et du 20e une certaine idée de la Révolution. Je crois que c'est finalement cette porosité entre la réalité et la légende, cette porosité entre l'histoire et la mémoire qui rend difficile la connaissance du personnage. Si on se place par exemple à la fin du 19e siècle, on a plusieurs images de Danton qui entrent en concurrence. On a d'abord l'image qui est valorisée par la Troisième République, celle qui va édifier un monument à Danton en face du métro Odéon. Et en même temps, à cette époque-là, Danton représente la violence populaire et notamment les massacres de septembre.
Est-ce que les historiens sont d'accord sur une chose au sujet de Danton? Est-ce que, par exemple, son audace est reconnue, attestée, il est le plus audacieux des révolutionnaires, ou c'est aussi une vue de l'esprit de dire ça, ou exagéré?
Non, je crois qu'on peut le dire. Alors, bien sûr, il y a d'autres révolutionnaires audacieux dans ces années-là, mais l'audace de Danton est reconnue par les contemporains. Je pense notamment au comte de Provence, futur Louis XVIII, qui avait dit un jour que ce colosse à lui seul eût pu faire une révolution. Le mot qui revient très souvent chez les contemporains pour le caractériser, c'est le mot énergie. C'est un homme qui est persuadé que le monde est en train de changer, qu'il vit un moment historique, qu'il peut y participer, qu'il peut laisser son nom dans l'histoire, et je crois que ce lien entre l'homme et la révolution permet, en partie, d'expliquer cette énergie, cette audace, et l'image qu'il a laissée jusqu'à nous.
Mais là où il a été, je trouve un point très intéressant du récit, c'est que il comprend que pour sauver la République, il faut battre d'abord les troupes austro-prussiennes et non pas les ennemis de l'intérieur. Au fond, l'audace était la clé pour sauver la France réellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il sait que il faut sauver la Révolution avec la bataille de Valmy. Et c'est ce qui change tout, c'est vrai.
Tout à fait. C'est le premier danger. On est là en août 92 lorsqu'il s'adresse devant les députés de l'Assemblée législative. Et le premier danger, incontestablement, sont les Prussiens et les Autrichiens. Et pour les hommes de l'époque, l'enjeu est double. Et c'est un enjeu qui était tout à fait majeur. Il s'agit d'abord de libérer le territoire national. C'est un enjeu militaire et un enjeu politique. Mais il s'agit aussi de sauver la Révolution. Ces hommes de 1792, notamment Danton, connaissent leur histoire. Ils savent ce qui s'est passé dans les années 1780. Il y a eu des mouvements révolutionnaires en Europe, à Genève, aux Provinces-Unies, c'est-à-dire aux Pays-Bas actuels. Et ces mouvements révolutionnaires, dans les années 80, ils ont à chaque fois été arrêtés par l'intervention d'une armée extérieure. Donc la victoire des Prussiens et des Autrichiens, c'est non seulement la défaite de la France, mais c'est aussi la fin de la Révolution. Et de ce point de vue-là, il ne peut pas se permettre, et il comprend très bien où est la priorité à l'été 1792.
Il a une image pas très sympathique parfois chez certains historiens. Est-ce que c'était un homme qui avait vraiment à cœur de faire changer la société, ou surtout un opportuniste prêt à tout pour y arriver? On a du mal à dissocier, on a l'impression d'avoir un peu deux versions de cet homme-là.
Pour ma part, et je pense que beaucoup d'historiens sont de cet avis-là, je crois qu'il faut peut-être souligner d'abord la sincérité du personnage. Comme de beaucoup de révolutionnaires, comme de beaucoup de contre-révolutionnaires, les gens qui s'engagent dans ces années-là croient, je crois, en leurs idées. Si on prend le cas des députés à la Convention nationale, faut se souvenir qu'il y en a quand même 80 d'entre eux qui vont mourir de morts violentes entre 1792 et 95. Ils vont se suicider, ils vont mourir au combat, ils vont être exécutés. 80, c'est un chiffre important. Et ces gens-là croyaient en leurs idées. Danton est un homme qui va se mettre en danger dès les débuts de la Révolution, comme Robespierre. C'est un homme qui va être menacé d'arrestation à plusieurs reprises. Et vers la fin de sa vie, il sait très bien le risque qu'il court en défendant ses idées. Et ça va se terminer, effectivement, par un procès et par sa condamnation à mort.
Vous écrivez dans votre livre que Danton impose un discours vif, fait d'images et de formules choc, asséné par une gestuelle et une stature hors du commun. Il a l'art de se faire entendre à coup sûr, son apparence le sert, par son visage vérolé, sa chevelure indomptée, sa vigueur, il se rapproche d'un Mirabeau. Au fond, il est peut-être, vous dites, il est le Mirabeau de la canaille. Je crois qu'avant tout, c'était un grand orateur. Il se servait de tous ses arguments, y compris physiques, pour convaincre, pour attirer l'attention de tous sur lui, non?
Oui, et la comparaison à Mirabeau est tout à fait juste de ce point de vue-là. C'est vrai que ce sont deux personnalités qui sont des très grands orateurs. Danton, comme Mirabeau, a une voix forte qui lui permet d'être entendu par des parterres particulièrement importants devant des centaines de personnes. Il a aussi l'art de la parole, c'est un avocat. Il a l'art de l'improvisation. Il a l'art de la formule. On peut penser notamment à son procès lorsqu'on va lui reprocher d'être vénal. Il va répondre par une formule qui va faire rire la salle. Moi, vendu, un homme de ma trempe est impayable. Bon, c'est un homme qui sait parler, convaincre.
Mais comme Mirabeau, il a deux visages. Comme Mirabeau, eh bien, on a pensé un instant qu'il était stipendié par le roi.
Il joue un double jeu, en fait.
Oui.
Alors ça, ce sont des accusations qui arrivent assez vite. Alors au départ, c'est pas des accusations comme quoi il aurait été stipendié par le roi. Ce sont des accusations en 1793 qui arrivent après sa mission en Belgique. et on lui reproche de s'être servi finalement dans les caisses de l'État. Alors, qu'en est-il ? Ben, c'est très difficile de le savoir. On sait qu'il a acheté beaucoup de biens nationaux et on se demande si le remboursement de sa charge d'avocat au conseil à elle seule permet d'expliquer ses acquisitions. Donc là, on a un domaine assez sombre sur lequel les débats existent jusqu'à aujourd'hui.
Et sur sa relation avec Robespierre, c'est vrai que pendant des années, Danton et Robespierre, moi je me souviens, gamin, j'avais été voir le spectacle de Robert Hossein, je sais pas si vous l'avez vu, vous étiez trop jeune, Mathieu. Bon,
oui,
bref.
Oui, mais j'en ai entendu parler de ce spectacle.
Il s'estime sans pour autant être très proche. Mais il y avait ceux qui étaient pour Robespierre et ceux qui étaient pour Danton. C'est vrai que il y a un revirement de situation, c'est le point où la révolution bascule d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que Robespierre se retourne contre Danton? Il avait peur de Danton, il était jaloux de Danton. Comment vous expliquez ça ?
Je pense que ça s'explique essentiellement par le contexte. On est au tournant de 1793-1794 à une période particulièrement difficile. C'est la mise en place de ce qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire, donc des mesures d'exception pour faire régner l'ordre dans le pays et pour mobiliser le pays pour vaincre les ennemis extérieurs. Et dans ce contexte-là, Danton, comme d'autres, va craindre la mise en place de ce qu'il appelle un nouveau despotisme et va donc critiquer le gouvernement révolutionnaire. Et on est dans une période où la critique du gouvernement, en période de guerre, en période de révolution, est très facilement comprise comme une trahison. Et c'est sans doute cette division politique qui va lui coûter sa tête.
Un mot pour finir peut-être du procès de Danton. C'est une farce, ce procès.
C'est un procès politique, ça, incontestablement. Il y a 16 personnes qui vont être accusées, 15 vont être condamnées en 4 jours seulement. Il y avait des témoins, mais un seul a été entendu. Il y avait des défenseurs, mais ils n'ont pas pu prendre la parole. Et de ce point de vue-là, Danton est tout à fait conscient de ce qui se passe. La veille de sa condamnation, le 4 avril, il va dire à un moment « Je suis Danton jusqu'à la mort, demain je m'endormirai dans la gloire ». Et il y a donc là un procès qui va devenir très vite un procès devant l'histoire, plus qu'un procès devant les juges. Les personnes qui sont accusées en sont tout à fait conscientes. Et elles vont donc défendre leur image, finalement, mais leur image pour la postérité plus que leur image devant les juges qui, ils le savent bien, vont les condamner juste après.
Mais cela dit, son audace a fini par payer parce qu'aujourd'hui, il y a une statue de Danton alors qu'il n'y en a aucune de Robespierre.
Ah, il y en a quelques-unes de Robespierre quand même, mais pas à Paris.
Pas à Paris, à Arras peut-être où il était né. Enfin, c'est un vaste débat. Merci beaucoup, Hervé Levert, c'était passionnant.
Merci.
Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé avec Michel Biard, Danton, le mythe et l'histoire, paru chez Armand Collin.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les après-midi de 16h à 18h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Aujourd'hui, Clémentine Portier-Kaltenbach, vous revenez évidemment sur un audacieux qui fait désormais partie de l'histoire, Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint hier soir à l'âge de 94 ans.
Oui, en effet, et du point de vue des femmes, eh bien, c'est peu dire qu'il fut l'un des plus audacieux de nos présidents de la République. Parce que revenons en arrière sur l'histoire de la Ve République. Prenez les premiers gouvernements du général de Gaulle, entre 58 et 69. Il y a eu deux femmes qui font une très timide et très éphémère apparition. L'une d'entre elles est secrétaire d'État en charge des questions sociales en Algérie, Nassifa Sidkara, et puis Marie-Madeleine Dinesh, qui est secrétaire d'État à l'Action sociale. Sous Pompidou, encore deux femmes, dont cette même Madame Dinesh et une certaine Suzanne Plou, mais avec Giscard d'Estaing, dès son premier gouvernement en 74, Simone Veil, bien sûr, ministre de la Santé, et Françoise Giroud, qui prend la tête d'un secrétariat d'État à la condition féminine. Ça n'existe pas, c'est vraiment une invention de Valéry Giscard d'Estaing. Et cette féminisation de l'équipe gouvernementale, c'est vraiment un événement majeur dans l'histoire de la vie politique française. Hein. Il y avait 9 femmes dans les gouvernements Giscard d'Estaing.
Mais c'est parce qu'il aimait la parité ou qu'il aimait les femmes ?
Alors,
je dirais
les deux, mon général, parce qu'en effet, il y a les hommes qui aiment les femmes, et l'histoire retiendra, je le disais sans doute, de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il était un homme à femme. Mais il y a ceux qui ont agi pour elle, et c'est ce qu'il a fait. Il a noblement servi la cause des femmes, et d'ailleurs, les femmes avaient beaucoup pesé dans son élection en 1974. Alors, je vous citais bien sûr les deux femmes en particulier qu'on a retenues dans cette action pour les femmes, qui sont naturellement Simone Veil et Françoise Giroud, mais souvenez-vous d'Annie Le Sueur, secrétaire d'État à l'enseignement périscolaire, Alice Saunier-CIT, Christiane Scrivener, qui était secrétaire d'État, on l'appelait Madame Consommation, Hélène Missoff, naturellement, qui a été secrétaire d'État auprès de Simone Veil.
Neuf femmes à des postes importants.
Neuf femmes, exactement, c'est surtout ça, c'est qu'on ne leur donne pas des sous-sous-secrétariats d'État pour faire joli et pour en faire des potiches. Donc, c'est quand même important.
Marlène Schiappa, si tu nous écoutes.
Et puis, c'est surtout aussi quand on pense au débat sur la parité au début des années 2000. Mais Valéry Giscard d'Estaing avait déjà mis ça sur le bureau 30 ans auparavant. Donc, je crois qu'on peut lui rendre hommage pour cela. Alors, évidemment, à côté de ça, il va mettre en œuvre d'importantes réformes législatives.
Bien sûr, oui.
Alors, bien sûr, la loi Veil, l'autorisation volontaire de grossesse. Et là, il faut souligner encore tout le mérite de Valéry Giscard d'Estaing parce que sa majorité politique était opposée. Il le disait lui-même, il a fallu attendre le texte au Parlement, il n'y avait personne. Le ministre de la Justice, qui aurait dû défendre le texte, était un MRP de culture chrétienne et il m'a dit que pour lui, ce serait trop difficile. Si ça n'était pas le ministre de la Justice, il fallait bien que ce soit le ministre de la Santé. J'ai demandé à Simone Veil et elle l'a fait avec beaucoup de dignité et de courage. Donc, légalisation de l'avortement qui est adoptée définitivement le 20 décembre 1974 et peu après, promulgation du texte donnant libre accès à la contraception, autre événement majeur dans la vie des femmes, remboursement de la pilule par la Sécurité sociale. Et vous voyez, la nouveauté aussi dans la gestion à la Giscard d'Estaing, c'est d'aller chercher des personnalités de la société civile. Simone Veil, Raymond Barre, et puis il va prendre des gens qui ne sont pas des politiques. Par exemple, Françoise Giroud, naturellement, c'est pas un hasard s'il va la chercher, elle. Immense journaliste, cofondatrice de l'Express. Et donc, première secrétaire d'État à la condition féminine entre 74 et 76. Elle va décréter 101 mesures pour les femmes, leur fait notamment et principalement ouvrir certaines professions qui jusqu'alors étaient réservées aux hommes. Et alors, il y a tout un volet de mesures. On crée de nouvelles prestations familiales, le divorce par consentement mutuel, la loi sur le temps partiel. Vous voyez, ça a été vraiment majeur, hein. Alors, c'est Giscard d'Estaing aussi qui a fait adopter par le Parlement une loi qui avait été à l'époque défendue par Monique Pelletier, ministre de la Famille, pour réprimer plus sévèrement les violences faites aux femmes. Et vous voyez, quand on pense à quel point ce sujet est majeur maintenant, dans les années 70, Giscard met aussi cela sur la femme. Donc, toutes ces lois représentèrent une victoire pour la promotion et la dignité des femmes. Alors, vous voyez, disons, c'est vrai, Valéry Giscard d'Estaing a sans doute pâti auprès de certains de cette image de grand aristocrate un peu emprunté. Comme le disait le grand communicant Michel Bongrand, qui, commentant la défaite de Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand, ce qui a perdu Giscard, c'est son destin. Reste qu'avec la disparition de ce grand homme d'État, nous pouvons dire aujourd'hui, comme nous avons coutume de le faire pour nos grands hommes, à Valéry Giscard d'Estaing, la patrie reconnaissante, et les femmes en particulier.
Bravo Clémentine, merci beaucoup.
Stéphane, vous restez avec nous, Clémentine aussi, vous restez ensemble pour le quiz, à l'issue duquel, probablement Stéphane, vous repartirez la queue entre les jambes en vous exclamant au revoir.
Mais, c'est-à-dire, c'est pas tellement ça, Mathieu, c'est que, puisque c'est un hommage aux femmes, laissons gagner les femmes, voilà.
Déjà d'avance, vous perdez d'avance Stéphane, croyez un peu en vous.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Il existe bien des techniques pour piéger un adversaire lors d'un affrontement. L'une de ces techniques particulièrement vicieuses consiste à jouer les faillots, à flatter son adversaire, ce qui est facile lorsque ce dernier est aussi votre supérieur hiérarchique. Clémentine Portier-Kaltenbach l'a parfaitement compris et elle en joue dès qu'elle peut, avant-hier encore.
Je peux vous annoncer une chose importante, puisque je viens de terminer la livraison, en quelque sorte, à France Télévisions du Secret d'Histoire sur Beethoven.
Oh, magnifique, magnifique. Bravo, Stéphane.
C'est ce qu'on appelle attendrir la viande. Mais attention, Clémentine, parfois, la viande se rebiffe. Oh, ben jour à Bern to be alive.
Là, dans mon cas, elle est avariée. Enfin.
Stéphane, ne vous tirez pas des balles dans
le pied. La viande se rebiffe. Non, mais vous laissez pas faire, Stéphane, écoutez.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, entre nous, c'est comme Danton et Robespierre.
Oh, mon Dieu.
Hier, j'étais son ami. Aujourd'hui, il m'envoie la guillotine. Que voulez-vous que je dise?
Sans remords, sans regret. Question numéro 1 de ce quiz entièrement consacré à Valéry Giscard d'Estaing, elle est pour vous, Clémentine. Valéry Giscard d'Estaing, un président moderne, réformateur, ambitieux, visionnaire, comment ça des preuves? C'est lui qui a instauré la galette des rois au palais présidentiel, vrai ou faux?
Alors, il y a toujours eu un arbre de Noël à l'Élysée, ça naturellement, une galette des rois. Écoutez, il y a un certain nombre de choses qui ont été adoptées dans le décorum et le fonctionnement de la République, ils l'ont été reprochés.
J'ai l'impression que vous êtes au point sur les décisions mineures du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, notamment sur les femmes. Mais alors sur la galette des rois, je vous sens.
Je suis un peu faiblarde sur la galette
des
rois.
C'est quand même son héritage.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de fèves.
Ah, vous donnez un indice.
Parce que c'est une immense galette qui doit être faite par tous les artisans. Mais il n'y en aurait pas eu avant lui. Pompidou n'aurait pas fait.
C'est toute la question.
Allez, je dis oui. Je dis oui.
Est-ce que ça date de Valéry Giscard d'Estaing?
Oui, parce que c'est depuis cette date qu'on reçoit les boulanger, je crois.
Bon, alors merci Stéphane, j'ai appelé mon joker. Je dis oui.
L'appel à un ami est-il fructueux?
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse.
Merci Stéphane.
C'était en 1974 avec, on le sait tous, une absence de fèves, car il ne peut pas y avoir un roi et un président à l'Élysée.
C'est excellent.
Oui, bien
ça.
Sûr. Et d'ailleurs, les sans-culottes de la Révolution avaient lancé la galette de l'égalité. Et oui, il y avait déjà de la frangipane, donc c'était déjà fort bon. Question numéro 2, Stéphane. Avant l'élection d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française élu était Valéry Giscard d'Estaing. Vrai ou faux?
De la 5e République, oui, assurément. Il avait 48
Stéphane,
ans.
Stéphane, ne reformulez pas les questions. Je vous demande si, avant l'élection d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française, toute République confondue, Stéphane, était, oui ou non, Valéry Giscard d'Estaing?
Non, mais je crois, oui, c'était le plus jeune. Le plus jeune avant Emmanuel Macron.
Et heureusement qu'il connaissait bien Valéry Giscard d'Estaing.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Stéphane. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III.
Ah, mais,
et
non, mais
oui,
de la 5e
et
République.
Oui, j'ai pris le temps de vous expliquer la question.
Il avait moins de 48 ans,
Napoléon III
prince
était
Napoléon.
Le premier chef d'État français élu au suffrage universel, mais sans les femmes, faut pas déconner non
il
plus.
Il avait 45
il
ans.
Il avait 40 ans.
40 ans!
40 ans, mais
ah,
oui!
J'aurais jamais
ah, il était plus
ça.
Vieux, hein, à l'époque
oui,
où vous
oui,
le fréquentiez.
Oui. C'est la petite moustache.
Ça
là.
Doit être ça. Giscard, lui, avait 48 ans, ça c'est bien, Stéphane. Là, je donne une image, c'est bien. Emmanuel Macron, 39 ans, en revanche, a été le président le plus beau de tous les présidents de toutes les républiques, selon une enquête du Bern Institute.
De Bern Institute?
C'est n'importe quoi. Vous étiez sérieux, et là, évidemment, oui. Vous donnez un coup de pied dans le seau, il n'y a plus de mots. Voilà.
Un coup de pied dans le seau, il n'y a plus de l'email date de quand cette expression?
Oui, c'est une blague ancienne.
Question pour vous, Clémentine. Dans ce quiz spécial Valéry Giscard d'Estaing, en 1956, Ian Fleming sort le roman Les diamants sont éternels. Vous verrez peut-être le lien avec Valéry Giscard d'Estaing. Un James Bond qui sortira sur les écrans en 1971. À l'époque de la sortie du livre en France, il est sorti sous le titre Chaud les glaçons. Vrai ou faux?
J'ai aucun souvenir de ça et j'ai du mal à croire qu'on aurait pu censurer le titre d'un James Bond pour ne pas porter ombrage à la dignité de notre président de la République qui en l'occurrence, non, moi je dirais non.
Mais je ne vous dis pas que c'est l'Élysée qui a fait changer le titre du James Bond, hein. Je ne vais pas jusque-là. Hein.
Non mais la production aurait choisi de changer le titre de sortie en France.
Moi ouais. Je ne donne plus d'indices.
Ouais, je pense que je me plante mais je suis mon intuition même si elle est mauvaise.
Donc Diamonds Are Forever a été traduit ou pas par Chaud les glaçons en français?
Non.
Vous avez perdu.
Et oui, Diamonds Are Forever, le premier titre en français, ce n'est pas Les diamants sont éternels, c'est Chaud les glaçons. Ça aurait pu être Chaud cacao aussi, carrément, ils étaient tellement loin de toute façon du titre originel. Et les publications suivantes à partir de 73, là on retrouvera le titre qui est juste, Les diamants sont éternels. C'est donc, malgré cette mauvaise réponse, une victoire.
Bravo,
une victoire des
Clémentine.
Femmes, Stéphane, soyez fiers. Et donc nous n'entendrons pas la dernière question qui était pourtant fort intéressante, je vous la livre comme ça, elle est hors concours. Hors concours pour le plaisir. On connaît tous la rivalité culte entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. En 76, le président de la République et son premier ministre se retrouvent dans la résidence présidentielle de Brégançon pour profiter de quelques jours de détente. C'est Anémone Giscard qui tente de rapprocher les deux hommes. Qui va être également invité de ce premier dîner par Valéry Giscard d'Estaing? Dominique Rocheteau, le footballeur, alors que Chirac déteste le foot. Une ancienne maîtresse de Chirac
non.
avec son mari.
Non.
ou le prof de ski
le
de Giscard.
Le prof de ski.
Oh, c'est victoire drôle. Virtuelle de Stéphane
c'est
Bern.
Drôle.
Oh, vous auriez gagné,
ouais.
Stéphane.
Ouais,
et oui, fou, le prof de ski, c'était une forme d'humiliation. Et quelques mois plus tard, eh bien, Chirac présentait sa démission.
Et je vais vous raconter un truc que vous auriez pu mettre dans le président Giscard a offert à son premier ministre un braque auvergnat. Un braque d'Auvergne.
Un braque, c'est un cheval, vous voulez dire. Hein, oui.
Non, un braque, c'est un chien.
Un
braque d'Auvergne.
C'est un chien, vous avez dit un cheval.
Ah non, je pensais un chien. Oui.
Et qui avait, je ne sais plus quel était son nom, et Chirac l'a rebaptisé, en hommage au président Giscard d'Estaing, il l'a appelé Ducon.
Je crains le pire.
Non. Ah, oui. Magnifique.
En tout cas, le prof de ski de Giscard, le chien Ducon, on a appris beaucoup de choses durant ce quiz que Stéphane n'a pas remporté, mais c'était pas loin. Bravo Clémentine. Et puis évidemment, bien entendu, suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing, édition spéciale d'Europe Soir à suivre dès 18h avec Julien Bugier et ses invités sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, 2 heures d'histoire sans se la raconter, mais placée aujourd'hui sous le signe de l'audace.
Oui, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace au programme cet après-midi, pour paraphraser la célèbre maxime du révolutionnaire Danton. Je vais vous parler d'une autre audacieuse dans son genre, une figure iconoclaste de la belle époque, la Goulue.
Que vous avez bien connue, Stéphane,
bien
selon
sûr,
la légende, c'est même elle qui vous réfait votre éducation. Toute une époque.
Contrairement à ce que vous pourriez croire, chers auditeurs, il y aura aussi de la précision dans cette deuxième heure, puisque par le portrait de notre troisième personnage, c'est vous, Mathieu, à 99% vrai.
Oui, mais le 1% faux ne sera pas que mon personnage a le vertige, car il a vraiment le vertige. Il est pourtant devenu, à force d'audace, le Spider-Man français. Je vous raconte le fabuleux destin d'un funambule de l'extrême, Alain Robert.
Alors, eux aussi, savez-vous, Mathieu, sont à leur manière des funambules de l'extrême.
Toujours plus loin.
C'est fou comme le générique de la savoureuse série Extrême Limite, toujours plus loin, plus haut, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite, ne correspond pas du tout à l'attitude désinvolte et au caractère pato, pour ne pas dire patachon, d'Olivier Pouls, l'aspirateur à moules de Namur, et David Kstelops, le dunker frustré du Taz.
Mais pas du tout.
L'aspirateur à moules de Namur.
Oui, je suis pas sûr que ce soit très flatteur.
C'est une belle définition.
Je ne suis pas Olivier. Namurois.
Oui,
j'ai grandi à côté de Bruxelles, à Louvain-la-Neuve.
Oui. Ah, Louvain-la-Neuve, ça s'appelle
bien. Mais quand même, aujourd'hui, Olivier, vous nous parlez d'une crème qui a toute une histoire.
Oui, une crème bien française, là pour le coup, puisqu'elle est née à Versailles. Je vous parlerai de la crème et forcément de la comtesse du Barry.
Oui. Et puis, David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines du cellophane.
Oui, tout à fait. Une invention venue de l'enfer pour moi, et je vous expliquerai pourquoi.
Pourtant, ça sert bien quand on a fait trop de crème du Barry,
exactement,
par exemple, pour la garder.
Et Stéphane ne compte pas pour des prumes, puisqu'il aura le dernier mot dans cette émission, Stéphane.
Absolument, et oui, d'où ça vient, compter pour des prunes.
Ah oui, l'expression compter. Pour des prunes,
oui,
c'est vrai.
Oui, d'où ça vient?
Pourquoi pas pour des cerises ou des... On ne sait pas.
Oui, ça vient des vergers de Damas. Mais enfin, c'est une longue histoire que je vous raconterai tout à l'heure.
Et dans un premier temps, plongeons-nous dans le destin d'une des danseuses les plus audacieuses de l'histoire. Pour vous, c'était Louise Weber. Pour Stéphane, qui l'attendait dans sa loge avec des fleurs, c'était simplement la Goulue.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Remontons le temps, direction Clichy. Dans cette ville située au nord de Paris en 1880, Louise Weber passe ses journées dans la moiteur d'une blanchisserie. Pourtant, l'ambiance eau savonneuse est fait à repasser très peu pour elle. La jeune femme a d'autres rêves en tête et pour cause. À peine venait-elle d'apprendre
pourquoi
à marcher...
Pourquoi vous prenez cette voix niaise quand une jeune femme évoque ses rêves?
Non, j'essaye de mettre un peu de romantisme.
Ah, c'est
vous
beau.
Voyez,
ah, d'accord, pardon, je vous écoute.
J'ai une voix niaise peut-être, mais à peine...
Une intonation, je ne me serais pas permis, Stéphane.
Vous permettez tellement d'autres choses. À peine venait-elle d'apprendre à marcher qu'elle maîtrisait déjà le chahut-cancan comme personne. Depuis, cette effrontée ne cesse de lever la jambe au rythme du galop infernal d'Offenbach.
Ça vous rappelle vos premières boums?
Louise Weber n'a pas 15 ans, mais voilà qu'après ses heures de labeur, elle part s'encanailler du côté des fortifs à la lisière de Paris. Dans ses guinguettes sans licence où le vin coule à flot, Louise enchaîne les pas de danse. Oh, elle n'est pas vêtue n'importe comment, la jeune fille n'a aucun scrupule à emprunter les jolies dentelles des bourgeoises dont elle lave le linge. tant qu'elle le rend, c'est vrai, où est le problème? Osons le dire sans détour, Louise a l'audace de sa jeunesse et elle a une forte tête aussi. Bientôt, elle déambule dans le Paris populaire entre Belleville et Pigalle et envoie promener les marlots qui l'accostent dans un argot confirmé. Mais au bal du Moulin de la Galette, une grande asperge dans votre genre l'invite à danser. Grâce à...
Est-ce qu'elle vous dit la grande asperge?
Oui, je sais. Grâce à Valentin le Désossé, la carrière de Louise démarre.
Il s'appelait vraiment Valentin le Désossé, le type, ou c'était quand même un surnom?
C'était son surnom. C'est le Désossé, c'est pas un nom, voyez-vous, Mathieu.
Tout est possible.
Première mission, et non des moindres, il faut lui trouver un nom de scène. C'était l'époque de la môme fromage, gris d'égout, demi-siphon, nini patte en l'air. Toutes les danseuses portent un sobriquet rieur. Alors, bientôt, le nom de la Goulue sera sur toutes les lèvres. Mais pourquoi ce surnom d'ogresse? Serait-ce la fâcheuse habitude qu'elle a de finir les vers? Son appétit de jeune loup? Ou ce monsieur Goulue qu'elle aurait fréquenté? Ah. Qu'importe. Une flûte de champagne à la main, une cuisse de poulet dans l'autre, tel est le credo de la Goulue. À l'Élysée-Montmartre, notre danseuse se mue en vedette des nuits parisiennes et sa gouaille en inspire plus d'un. Comme un petit homme à l'éternel pantalon quadrillé, un certain Toulouse-Lautrec. Le peintre à une place attribuée au comptoir du cabaret. Alors, entre deux verres d'absinthe, Toulouse-Lautrec immortalise le chignon roux et les froufrous virevoltants de la cancaneuse sur plusieurs toiles restées célèbres. Le quadrille naturaliste, c'est bien joli, mais n'oublions pas la bonne vertu. Faudrait tout de même pas qu'une danseuse dépasse les limites de l'indécence. Proclamée reine du lever de gambette, la Goulue est une cible de choix. Tous les soirs, sans exception, le père la pudeur, un certain Coutelas du Rocher, écume les cabarets de la butte Montmartre. Il traque l'incartade, le bout de chair trop intime. On le croise armé d'un centimètre de couturière et d'épingles par dizaines. Mais que fait-il avec ces outils étranges, me direz-vous? Eh bien, il mesure l'échancrure des décolletés et referme les pantalons des plus audacieuses. Pas de quoi impressionner la Goulue, hein. Elle n'a peur de rien, surtout pas de se faire mettre à l'amende. Alors notre provocatrice en chef lui ride au nez. C'est froufrou qu'elle agite de plus belle, c'est le drapeau de sa liberté. Elle oserait presque enjoindre Coutelas à la fête en faisant tomber son haut de forme d'un habile coup de pied en l'air. Et la reine des provocatrices n'est pas prête de s'arrêter. Voilà la Goulue, ambassadrice d'un nouveau mouvement de danse, le fameux coup de cul. Vous savez, cette façon qu'ont les danseuses de cancan de soulever leurs jupons pour présenter leur postérieur.
Eh bien, la Goulue, le coup de cul.
Oui, la Goulue l'exécute avec panache. Et puisqu'elle ne manque pas d'imagination ni d'audace, elle ajoute sa petite touche personnelle. Louise a fait broder un gros cœur rouge sur les fesses de son pantalon. De quoi affoler ces messieurs. La Goulue ne se soucie pas des conventions, quitte à embarrasser sérieusement ses patrons du Moulin Rouge, hein, comme ce soir où le célèbre cabaret reçoit un invité de marque, l'héritier du trône britannique en personne, qui est venu applaudir ce French cancan dont tout le monde parle. Et dans la salle, la Goulue a repéré la tête couronnée, le futur Édouard VII. Alors, après son inimitable levée de jambe, voilà qu'elle l'apostrophe sans vergogne. Hey, « Hé, Gal !» Oui, t'es prince de Galles. Tu payes le champagne ou c'est ta mère qui régale? Sa mère, c'est la reine Victoria quand même, ça rigolait pas. Silence dans l'assistance. Les gens sont tétanisés. Les maîtres des lieux sont à deux doigts de la syncope. Leur star n'a pas la langue dans sa poche, mais tout de même, là, on est en train de frôler l'incident diplomatique. Contre toute attente, le futur Édouard VII d'Angleterre sabre la bouteille de champagne pour arroser tout ce beau monde aux frais de la couronne. L'hymne britannique résonne et l'anglais ne perd pas une minute. Il est troublé par l'impertinence de cette incroyable danseuse, mais bientôt, la Goulue le surnomme Doudou. Ben oui, Edouard. Et ces deux-là s'amusent dans l'ombre d'une alcôve. Et oui, la Goulue multiplie les amants. Mais ne nous y trompons pas, Mathieu. Son indépendance, elle y tient. La danseuse empoche de gros cachets, hors de question qu'elle se fasse entretenir par quelques soupirants naïfs. Cette liberté, la Goulue la revendique dans des mises en scène dont elle seule a le secret. Comme cette fois où on la croise dans les rues de Montmartre accompagnée d'un bouc. Oui, vous m'avez bien entendu, un bouc qu'elle tient en laisse. Et oui, à l'époque, la loi emprisonne les femmes qui ne peuvent apparaître en public qu'en compagnie d'un homme. Eh bien, son mal à elle, le voici. Après 15 ans de cancan, tout en coups de cul et grands écarts, la goulue raccroche le jupon. Elle claque la porte du Moulin Rouge pour se lancer dans une aventure surprenante. À 30 ans, oui, c'est l'âge de la retraite hein, pour les danseuses, notre goulue s'improvise dompteuse de fauves. À ses risques et périls, car à force de provoquer des bêtes sauvages dans une cage, ce qui devait arriver arriva.
Oh non.
Mais oui, mais rassurez-vous, la goulue n'est pas tuée par les crocs acérés d'un gros matoun, quoique sa fin ne soit pas plus paisible. Louise Weber s'éteindra dans la misère. Ironie de l'histoire digne d'un triste conte, ces dernières années, il paraît qu'elle vendait des allumettes devant le Moulin Rouge. Oh. Mais sa gouaille, et surtout son lever de jambe, eh bien vous savez quoi Mathieu ? Personne jamais ne pourra le lui enlever.
Et on retiendra surtout que vous jouez merveilleusement la tristesse, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
La goulue, levez la jambe. Notre invitée, elle lève le voile sur cette danseuse qui est entrée dans l'histoire. La goulue, reine du Moulin Rouge, c'est le titre de votre livre. Marilyn Martin, bonjour.
Bonjour.
Oui, Marilyn Martin, vous êtes journaliste littéraire. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dans lesquels vous questionnez la place des femmes dans l'histoire, notamment à la Belle Époque. On peut dire que la goulue a bien sa place dans le panthéon des audacieux si on se fie à la fois à sa gouaille et à son culot, n'est-ce pas ?
Ah oui, c'est vrai qu'elle fait pas dans la dentelle. Hein. Pourtant, c'est une blanchisseuse, mais elle se sert justement de son petit truc en plus, c'est-à-dire elle a la danse chevillée au corps pour se démarquer de ces femmes de la Belle Époque. Parce que c'est vrai qu'une femme, être une femme dans cette époque un peu compliquée, même si c'est le siècle de la révolution industrielle et de la fée électricité, c'est compliqué d'exister. Et elle sait que grâce à sa gouaille, grâce à son tempérament, eh bien, elle fera plus que les autres.
On en a parlé dans le récit, elle était l'amie, en tout cas, de Toulouse-Lautrec. Il n'y a jamais eu de passion entre eux.
Ah non, c'est une belle amitié, tous les deux. Elle appelait mon petit touffu et lui disait d'elle, c'est une femme sensible, hardie, féline, comme un gant, et elle disait aussi que cet homme la grandissait. Cet homme la considérait non pas comme une Vénus de la pègre, mais comme une femme en part entière. Et elle disait aussi, quand je vois mon cul peint par toi, je le trouve très beau.
Mais donc, Marilyn, c'est grâce à Toulouse-Lautrec qu'on a retenu surtout la goulue plus que d'autres, même si Nini Pat en l'air ou certaines sont passées à la postérité, mais sans qu'on imagine leur visage, ou en tout cas c'est vraiment Toulouse-Lautrec qui a fait que la goulue l'emporte sur toutes les autres.
Exactement. Toulouse va la peindre, va la croquer, parce qu'il y a eu l'affiche, la fabuleuse affiche, l'affiche publicitaire du Moulin Rouge, Bal au Moulin Rouge en 1891 de Toulouse-Lautrec, qui va être un véritable coup de poing sur les murs de Paris. Même les conducteurs de fiacres se retournent et ça crée des accidents. Et on va même aussi déchirer cette affiche publicitaire.
Ah oui.
Et on va devoir en recréer d'autres tellement elle passionne les foules. Oui, donc on peut dire que Toulouse-Lautrec a créé la goulue. Et après, la goulue, c'est aussi Louise Weber, c'est une femme à part entière et elle va se démarquer par sa gouaille, par son tempérament. Et on dit que c'est la reine du Moulin Rouge. Pourquoi ? Parce qu'elle a cette dent chevillée au corps, qu'elle va créer des figures et qu'elle en impose par sa posture, par sa stature.
Elle a franchi les barrières sociales surtout, parce que ce que vous racontez très bien dans votre livre, c'est qu'au fond, le Moulin Rouge, c'est quoi ? Ben, c'est un endroit où les grandes se mondent, viennent s'encanailler. Le prince de Galles dont je parlais, il y a le chat de Perse, les barons de Rothschild, enfin, ils viennent s'encanailler et elle leur parle comme leur femme n'osait pas leur parler.
Ça
c'est un peu ça aussi.
On dit qu'elle a un naturel qui frise le surnaturel. Donc oui, et puis elle en joue. Elle a très bien compris que si elle reste dans son... Parce qu'elle est quand même issue d'un milieu populaire. Donc si elle use de ses mots, c'est vrai qu'elle aurait pu faire rougir un escadron. Eh bien, elle sait que ça va attirer le bourgeois qui est là justement pour s'encanailler, pour aller voir autre chose. Et cette intime efflorescence qui débordait de la culotte fendue. Et il se dit même que les ambassadeurs quittaient les parquets cirés pour venir voir Louise danser.
Un mot sur, pour écrire votre biographie, vous avez eu accès, je crois, à son journal intime, à Louise Weber. Donc, qu'est-ce que vous y avez découvert dans ce journal qu'on ne connaissait pas ?
Eh bien, justement, une femme délicate, forte et fragile à la fois. J'ai d'abord été émue par son écriture. Alors, effectivement, elle écrit comme elle parle, mais elle a beaucoup... on voit que c'est une femme généreuse qui est très proche des animaux. Jusqu'à la fin de sa vie, elle préférait nourrir ses animaux que de penser à elle. C'est une femme aussi fragile. C'est une femme qui est plus une amante qu'une mère. on a fait état de ses nombreuses conquêtes. C'est une femme libre qui a fait le choix de ses amants, tant dans les milieux fortunés que dans les milieux plus populaires. Et on lui a souvent reproché, quand c'est un homme, on dit que c'est un don Juan. Quand c'est une femme, c'est plus compliqué.
C'est une catin, oui.
Et elle aimait aussi les hommes, mais elle aimait aussi les femmes.
Ah oui.
Parce que, comme le dit Colette, elle fuyait le plaisir charnel attaché à l'humiliation du mal tout-puissant.
Bon, ben on en a appris davantage grâce à vous, Marilyn Martin. Pour tout savoir sur Louise Weber, redonnons-lui son nom quand même.
Oui.
J'invite tous nos auditeurs à lire votre biographie, La Goulue, reine du Moulin Rouge, qui vient de reparaître en format poche aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous, Marilyn
Merci
Martin.
À
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on rend hommage aux grands audacieux de l'histoire. Après l'excentrique Louise Weber, la goulue qui n'avait peur de rien, Danton, le père de la célèbre formule de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, Mathieu, vous nous parlez à présent, dans 99% vrai, d'un audacieux plus proche de nous, plus vivant, plus contemporain. Il n'a pas fini de nous étonner. Le Spider-Man français, j'ai nommé Alain Robert.
Oui, Stéphane, de même que dans le domaine horloger ou automobile, il y a le haut de gamme et l'entrée de gamme, il existe différents degrés dans l'audace. L'entrée de gamme de l'audace étant incarnée, par exemple, par David Castello-Lopez, dont la plus grande audace fut de dire un jour à haute voix
« Je trouve que l'écriture, voilà, c'est vraiment une invention super. »
Ça, par exemple, c'est un positionnement audacieux, mais sans excès, pondéré, ponderinho, comme on dit chez lui. Et puis, il y a le haut de gamme de l'audace, moins accessible, et ça, c'est Alain Robert. Un type qui trouve que l'escalade avec du matériel, pour s'assurer, c'est bon pour les stages d'été à l'UCPA, et qui préfère donc escalader les gratte-ciels à main nue. Alain Robert, c'est ce gamin qui, enfant, devait horripiler les parents des autres gosses au square en grimpant au sommet de l'aire de jeu à seulement 4 ans alors que leur môme de 10, eux, chouinaient encore quand le tourniquet allait trop vite. Bien sûr, pour les parents d'Alain Robert, ce côté casse-cou a dû aussi être source d'inquiétude. Aucun parent n'a envie de voir son fils devenir alpiniste. Mais bon, sachant qu'il avait un prénom qui était aussi un nom, ses parents étaient déjà soulagés qu'il ne devienne pas tueur en série. Donc, va pour la grimpette. Pourtant, premier paradoxe, Alain Robert nous révèle qu'il était un enfant sensible et frileux face au risque. Il confie dans la presse « J'étais un gamin pétochard, je faisais régulièrement des cauchemars, j'avais la phobie de la mort. » Avec Alain, on ne doit pas avoir la même notion du mot pétochard, puisqu'après nous avoir dit qu'il était peureux, il raconte, je cite « La première fois que j'ai grimpé dans ma vie, c'était un bâtiment. Le bâtiment où mes parents habitaient. J'avais oublié mes clés, donc fallait bien rentrer à la maison. 7e étage, j'avais 11 ans. C'était un immeuble facile, rien de bien compliqué. Pas de quoi frimer, en effet, hein, j'en connais qui ont fait des trucs bien plus fous à l'âge de 11 ans.
Et vous, moi je suis allé à Legoland.
Voilà, bon, ça c'est la norme. Quelques années plus tard, Alain Robert obtient son brevet d'état de moniteur d'escalade, mais voilà. Emmener des touristes jouer les alpinistes du dimanche avec tous les soucis que ça engendre, surtout quand vous tombez sur un empoté comme Stéphane Bern.
Balancez tout ce que vous pouvez.
On balance ta gourmette là.
Quoi?
Balance ta gourmette en or là.
Mais des berceaux ça passe rien.
Papa, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, mais...
Un bijou de famille, je vais pas balancer ma gourmette.
Balance.
Ça finit par taper sur le système de Robert qui décide de renoncer au métier de moniteur d'escalade. Non, il ne sera jamais un grimpeur conventionnel. En plus, il est allergique au baudrier qui lui irrite le sillon interfécié. Il entame donc une carrière d'escaladeur solo intégral. Il devient ce qu'on appelle dans le petit milieu de l'escalade un adepte du sans-filet. Non, dans le jargon de l'escalade, ça désigne autre chose, Stéphane. Grimper sans assurance, sans mousqueton, sans corde, sans rien. Pour quelqu'un comme moi, dont l'expérience du sans-filet se limite à la fois où j'ai commandé sans avoir checké les avis un désodorisant Airwick sur l'e-shop d'Auchan, ce que fait Alain Robert est proprement sidérant. Vous voyez les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur ?
Bah oui.
Il les a escaladées. Vous voyez l'Empire State Building ?
Bah
il l'a escaladé. Vous voyez Cameron Diaz ? Non, je déconne. Non, Alain n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il doit s'entraîner. Physiquement, ce n'est pas la masse de muscles qu'on pourrait imaginer. Avec ses 1m64 et 50 kilos, dont 16 de cheveux, Alain Robert est un subtil mélange de Mick Jagger, Jean-Louis Aubert et Chantal Latsou, pour vous aider à visualiser. Le truc le plus dingue, c'est que depuis toujours, Alain Robert déclare, je disais, souffrir de vertige. C'est donc un peu comme si un type allergique au lactose avait choisi de travailler dans une fabrique de cancoyotes. Malheureusement, grimper à main nue des édifices de plusieurs centaines de mètres de haut ne va pas sans risque. En 1982, ce qui devait arriver arriva, il est victime d'une chute de 15 mètres, tête la première, lors d'une descente en rappel, l'erreur à la con, un nœud mal attaché. Presque aussi couillon qu'un lacet d'effet. Les séquelles physiques en plus, évidemment. 6 jours de coma, des fractures multiples, aussi insensé que ça puisse paraître, Alain Robert est encore aujourd'hui invalide à 66%. À l'époque, les médecins étaient formels. D'ailleurs, il ne pourra plus jamais grimper, ce garçon, disent-ils. Un an plus tard, il grimpe à nouveau. La tour Montparnasse, la Bibliothèque Nationale de France, la tour TF1, la tour Eiffel, l'obélisque de la Concorde, le Sacré-Cœur, la tour Areva, la tour tour GDF Suez. Mais tout ça ne suffit pas, il lui faut l'Amérique. À New York, il s'attaque au Brooklyn Bridge, à l'Empire State Building, on l'a dit, puis au Golden Gate de San Francisco. Il a plus de 140 ascensions à son actif. Il est le cauchemar des agents de sécurité, puisqu'évidemment, toutes ces ascensions sont complètement illégales. Alain Robert déclare fièrement « Il y a toujours 20 ou 30 flics qui m'attendent en bas, mais souvent, ils sont admiratifs. » Procès, prison, amende, interdiction de payer. Alain Robert, c'est l'audace de Spider-Man, le casier judiciaire de Patrick Balkany. Mais ses exploits, Alain ne les accomplit pas seulement pour la performance sportive ou l'ego. Il est porteur d'un message. Ainsi, lorsqu'il a escaladé dernièrement la tour totale à la Défense, il avait pour objectif de défendre les grévistes qui protestaient contre la réforme des retraites. Alors, pour faire tout ça, vous devez penser avec effroi en ce qui concerne Olivier Pouls, le type doit avoir une hygiène de vie de moine tibétain et ne se nourrir que de tofu déshydraté et de graines de chia bio. Rassurez-vous, Pouls, pas du tout. Lors d'un déjeuner organisé avec une journaliste pour le magazine Vanity Fair, il déclare « Je suis un bon vivant, je bois beaucoup d'alcool et je me fous de tout. Je traite davantage mon corps comme un type qui sort en boîte qu'à la manière d'un athlète de haut niveau. » La journaliste, visiblement choquée, précise « Il vient de commander sa 5e coupe de Laurent Perrier et un second steak tartare avec un râpe de pommes de terre. Sacré Alain !» Alors évidemment, on va pas tous se mettre demain à escalader des buildings, mais je trouve cette histoire d'un type qui réussit à surmonter son vertige pour en faire son métier assez inspirante. Ça devrait tous nous inciter à faire montre d'un peu plus d'audace dans notre vie quotidienne. Par exemple, Stéphane, tout à l'heure, à la machine à café, ne prenez pas un énième macchiato. Osez le cappuccino.
Je ne veux pas.
Mais si. Oh, c'est pas gagné. Hein.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était très amusant. Mais il y a des choses fausses, non? Les 16 kilos de cheveux.
Oui, effectivement. Il n'a pas 16 kilos de cheveux, mais je vous invite à aller découvrir sur Internet si vous ne l'avez jamais vu. Il a effectivement une masse capillaire impressionnante à la hauteur de son courage. Mais surtout, ce qui est fou, c'est cette histoire de vertige. Personnellement, je croyais que c'était du bluff, mais non, il a un problème d'oreille interne. Il a le vertige, le vrai vertige, hein, pas.
Oui, oui, vraiment.
Mais qu'est-ce que c'est? Quels 66% sont handicapés?
je ne sais pas quelle est la partie de son corps qui est handicapée, mais il arrive à se hisser quand même au plus haut. Mais donc, ça nous incite tous à nous dépasser, à faire mieux. Les amis, j'espère que vous en prendrez de la graine.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement vôtre, dédiée non pas à un retour vers le futur, mais plus modestement, un retour vers le présent.
Avec nos chroniqueurs, ces deux audacieux qui s'ignorent, préférant la quiétude de leur petit confort bourgeois, fait de bonnes bouteilles de Beaujolais pour l'un, de farandoles de pastilles de nata pour l'autre. Leur plaisir, nous faire remonter aux origines de ce qui compose notre quotidien.
Et là, c'est pas des pastilles de nata, mais Olivier Pouls nous ramène à la crème de la comtesse du Barry.
Oui, un délicieux potage de chou-fleur, on est en plein dans la saison d'ailleurs.
Pile poil. Le mot de la fin, c'est vous qui l'aurez, Stéphane, avec chaque jour l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, une expression, ça compte pour des prunes.
Pourquoi des prunes?
Pourquoi des prunes plutôt qu'un autre fruit, c'est vrai. Mais tout de suite, on va parler d'un matériau qui visiblement dérange Castelo López, qui est quand même un garçon spécial qui a comme ça ses petites aversions. Le cellophane.
Tout à fait. Mathieu, Stéphane, Olivier, dans la vie, je crois qu'il n'y a pas de petites victoires. Hein. En revanche, il y a beaucoup de petites défaites. Et l'une de ces petites défaites pour moi, eh bien, c'est mon incapacité à gérer le cellophane. Voilà. J'en souffre et ça me rend triste. Vous savez, le cellophane, ça se présente le plus souvent sous la forme d'un rouleau enfermé dans une boîte en carton dont un des bords est surmonté d'une ligne de petits picots censés vous seconder dans la tâche la plus difficile quand on est dans le business du cellophane, à savoir le découper. Alors moi, comme tout le monde, je déroule la longueur qui m'intéresse. J'applique le cellophane sur la ligne de petits picots, jusqu'ici très bien. Et puis là, c'est le chaos. C'est-à-dire que des deux choses l'une, soit je tire pas assez fort et le cellophane ne se déchire pas nettement au niveau des picots. Les picots font alors que griffer le cellophane, le blesser, le rendre au passage inapte à remplir son rôle d'emballage d'appoint. Soit je tire d'un coup sec et le cellophane cède, certes de façon linéaire au niveau des picots, mais emporté par l'élan du coup sec, il se rassemble brusquement en un amas dégueulasse au creux de ma main et je dois ensuite le redérouler patiemment comme un connard pour finir par voir que le dit morceau que j'ai découpé est un tout petit peu trop petit pour couvrir le bol dans lequel j'ai mis le reste du houmous.
Voilà. Mais pour ça, il faut déjà avoir trouvé le début du cellophane sur le rouleau.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça, vous êtes en oublié cette étape-là, qui est encore plus longue.
Un autre problème. Le cellophane, donc, pour moi, c'est un FDP, hein, c'est comme ça. Mais alors, qui est le FDP qui a pu inventer un tel truc de FDP? Bon, à ce moment-là de ma chronique, je suis obligé d'être honnête en disant que ce que, au quotidien, on appelle cellophane, hein, le matériau que je viens de décrire et qui sert à couvrir le bol de tomates cerises, eh bien techniquement ce n'est pas du cellophane.
Mais non.
Le vrai cellophane, que je suis pas capable tout à fait de reconnaître à coup sûr, ça sert plutôt à emballer les biscuits dans les biscuiteries chic, vous voyez. Et surtout la grosse différence, et là je pense que vous allez avoir des coins bouchés par cette information, la grosse différence, c'est que le vrai cellophane, ce n'est pas du plastique. C'est un dérivé de la cellulose, c'est-à-dire de la pâte à bois. Et oui, scoop, je vous le dis aujourd'hui, le vrai cellophane, c'est du bois.
Voilà. Bah alors c'est bien, c'est moins polluant que le plastique.
Mais oui, vous disiez tout à l'heure, ça pousse pas sur les arbres.
Eh ben, et si, pousse, si, pousse, ça pousse d'utiliser une fois de plus.
Exactement. C'est de l'arbre, oui, c'est de
exactement.
L'arbre.
Mais alors, qui c'est qui l'a inventé, ce vrai cellophane? Eh bien, comme le velcro, c'est un Suisse.
Mais bien sûr.
Un ingénieur qui s'appelait Jacques Brandenberger en 1908. Et l'histoire qu'on lit partout, c'est que Jacques, il a vu quelqu'un renverser du vin dans un restaurant et que la nappe était toute crade ensuite. Et il s'est dit, ce serait cool d'avoir une façon que la nappe soit imperméable. Il s'est mis au travail et en 1908, il a créé ce film à partir de pulpe végétale, donc, qu'il appelait cellophane. Pourquoi cellophane? Une petite idée?
Référence à Aristophane? Non. Je ne sais pas.
Cellulose.
Oui.
Vous avez dit cellulose.
Oui, c'est la rencontre de deux mots, cellulose et diaphane. Qui est un vieux mot pour dire transparent, en fait. Ça marchait pas super bien. Le cellophane, ça marchait pas super bien pour imperméabiliser les nappes, mais ça marchait pas mal en tant que tel, juste pour emballer des trucs. Jacques, il a créé une entreprise à Paris pour commercialiser son invention, qui a ensuite été rachetée par les Américains. Et alors, est-ce que vous pouvez deviner quelle petite révolution du quotidien est-ce qu'a permis le cellophane?
Mais les doggy bags, non?
Non, tout à fait. C'est plutôt les
vendre à l'unité les choses.
Oui,
par
les établissements qui vendent de la nourriture en self-service. Avant, il y avait toujours quelqu'un derrière un comptoir qui vous donnait vos trucs. Ça existe encore aujourd'hui. Mais la nourriture en self-service, c'est-à-dire en gros les supermarchés d'aujourd'hui. Parce que oui, les clients, on peut leur vendre des trucs sans qu'ils parlent à personne, mais il faut qu'ils puissent voir le produit. Et le cellophane, ça permet d'emballer tout en laissant voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Oui, c'est vrai. Quant au film plastique étirable,
qui est autre chose. On est dans le plastique.
Exactement. Ça, on est vraiment dans le plastique. Ça, c'est une invention de l'enfer, hein, que, comme je l'ai dit, qu'on utilise à la maison. Il a été inventé dans les années 30 et comme plein de trucs, il s'est développé après la guerre, pendant les 30 glorieuses. Ce film plastique étirable aujourd'hui, il est partout dans l'emballage. Pas seulement d'ailleurs dans l'emballage des choses, hein, mais également dans l'emballage des gens.
Comment ça, David? Qu'est-ce que c'est que cette pratique?
Je l'ai découvert pour faire cette chronique. Le film plastique est un accessoire érotique assez répandu. Et notamment, il y a des centaines de gens qui enveloppent des filles dans du film plastique pour leur faire l'amour ensuite. C'est très étonnant. J'ai vu un certain nombre de vidéos. Je sais pas, ça doit être le côté... Ça enferme un petit peu le film plastique et en même temps, c'est transparent. Ça laisse voir, je sais pas. Mais j'ai pas encore essayé. Mais j'imagine quand même que ça pourrait peut-être me réconcilier avec le film plastique. Principalement, je pense, parce qu'il y a moins besoin de le découper. Or, le découpage du film plastique, c'est ça mon problème.
Mais elles peuvent respirer quand même.
Bien sûr, oui, évidemment, c'est pas des bleurs.
On ne plastifie pas la tête, Stéphane. Mais donc, le rouleau dont on parlait au début, ça, c'est du cellophane ou c'est
ça,
du
plastique? Ça, c'est du film plastique, ce n'est pas du cellophane.
D'accord.
Du film
plastique. Est-ce qu'on peut trouver en film étirable... pour la nourriture, du cellophane, ça existe encore?
Alors ce n'est pas du film étirable, mais on peut trouver du cellophane, ouais. Et encore une fois, j'ai vu des blogs qui essayent de dire sachez faire la différence entre le cellophane et le plastique, et c'est dur. Tiens, c'est pas facile, ça se dit pas comme ça.
Ce que vous faites la nuit nous intéresse peu, David. En revanche, les origines du cellophane, on les retrouve sur Les Origines en podcast, sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
L'audace, qui était, je le rappelle, le thème de notre émission, a-t-elle sa place en cuisine? Pouls a essayé une fois de se montrer original, mais sa femme a trouvé ça moyen.
Quand votre femme va rentrer dans la cuisine et qu'elle va vous voir à quatre pattes devant le four, ça fait toujours un truc.
Olivier Pouls arrive pour nous parler d'une crème aujourd'hui. Lui-même, c'est une crème, mais vous nous parlez de la crème
du Barry.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Avant de faire sa connaissance, il faut l'admettre, les connaissances culinaires de Stéphane Bern étaient assez limitées.
Faut pas confondre coco et abricot. Le coco a de l'eau, l'abricot a un noyau.
Le recrutement d'Olivier Pouls dans notre équipe est une aubaine pour vous, Stéphane, mais surtout pour nous tous. Olivier Pouls. Chaque jour, l'histoire d'une recette, et aujourd'hui une recette que je ne connais pas, puisque je pensais que c'était comme de la crème anglaise, et c'est pas du tout ça, visiblement. La crème du Barry.
Un délicieux potage, et puis comme les premiers froids de l'hiver arrivent, que le chou-fleur est en pleine saison, eh bien on va pouvoir préparer cette crème que l'on doit à la fameuse comtesse du Barry. Alors la comtesse du Barry qui fut la favorite de Louis XV, épouse du comte du Barry, c'est par ce mariage qu'elle est devenue comtesse, a régné un moment sur les cuisines de Versailles. Et elle avait demandé à son cuisinier de réaliser une recette qui plairait au roi, à Louis XV donc, qui était, paraît-il, friand de chou-fleur. Donc il a inventé cette recette, mêlant chou-fleur, crème fraîche et bouillon. Le roi a été absolument séduit et évidemment, il a décidé de donner le nom de cette préparation, Comtesse du Barry, le nom de sa favorite, au plat. Alors, pour ce qui est de la réalisation, c'est vrai que c'est un plat qui a un peu disparu des cartes des restaurants.
Il a complètement disparu.
Et pourtant, c'est vraiment dommage.
C'est
parce
un velouté de chou-fleur, en fait.
C'est un velouté de chou-fleur, évidemment, mais ça sert, je vous le dirai dans un instant, de support à plein de petites créations que je trouve très intéressantes par la suite. Alors, pour réaliser cette recette, tout simplement, il vous faut évidemment un beau chou-fleur, 1 litre de bouillon de volaille, 50 g de farine, 50 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, parce que c'est lié en fait, c'est pas très liquide, il faut quand même qu'il y ait de la texture dans le plat. Donc de la crème liquide, 10 centilitres, sel, poivre, et moi je rajoute un tout petit peu de cumin, parce que je trouve que l'association chou-fleur, cumin marche extrêmement bien. Donc ben, vous allez réaliser un roux, hein, donc ça maintenant vous savez le faire, hein, farine non. plus beurre.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Roux,
oui.
Un roux. On mouille avec le bouillon, on met le chou-fleur coupé en petits morceaux, on laisse cuire 40-45 minutes le temps que le chou-fleur soit parfaitement bien cuit. On mixe le tout avec sel, poivre et une petite touche de cumin. Et ensuite, on va lier avec les deux jaunes d'œufs et la crème liquide. Là, il faut pas faire bouillir de manière à ne pas faire en sorte que les œufs cuisent et donc coagulent. Une fois qu'on a bien lié ça, on a la base de ce qui est le velouté du baril. C'est déjà très bon en soi, vous pouvez me faire confiance. Mais alors, si vous rajoutez dessus, par exemple, des petits dés de saumon fumé.
Là, c'est plus du baril, c'est le poule.
Ah, c'est une version, c'est ce que on customise le du baril,
c'est
évidemment.
C'est du baril avec des morceaux de Louis XV. Oui. Avec du lard.
Vous pouvez rajouter, pourquoi pas, des petits morceaux de lard croustillant.
Ah oui.
Pourquoi pas des œufs de saumon. Ah. Et même,
mais mon pas cher, en même temps. Mais,
non, pas en même temps.
Hein, parce que...
Et même, mon cher Mathieu, Joël Robuchon avait une interprétation de la crème du baril avec du caviar.
Du caviar.
Et chou-fleur caviar.
J'aime bien que cette partie de l'émission soit dans le quotidien.
C'est absolument incroyable.
Et pour pas cher, finalement, on peut se faire plaisir dans la vie. C'est ça qui est la leçon qu'on peut tirer de tout ça.
Je vous donne en tout cas une bonne idée pour votre réveillon, mon cher Mathieu.
Il faut commencer à y penser. Un peu d'audace.
Puis vous nous inviterez.
Oui, mais on va se faire chez Stéphane.
On partagera, on se fera 5 grains de caviar chacun.
C'est plus qu'il n'en faut. Mais bien, c'est fini, Olivier Pouls.
Pour ce qui est de la comtesse du Barry, oui, j'en ai terminé. La pauvre, malheureusement, a mal fini parce que...
Ça lui a pas réussi le chou-fleur.
Parce que le successeur de Louis XV, Louis XVI, l'a viré de Versailles. Elle a passé quelques années dans un couvent avant de se faire guillotiner. Alors, voyez-vous...
Oui, c'est parce qu'elle était revenue chercher ses bijoux. Et c'était une erreur. En tout cas, on retrouve évidemment les recettes d'Olivier Pouls sur le site d'Europe1.fr.
Et Stéphane, c'est le moment de votre dernier mot qui approche à grands pas. Pourquoi dit-on, ça compte pour des prunes et pas pour des choux-fleurs, par exemple. C'est ce que vous allez nous raconter.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Vous savez à quel point j'apprécie Stéphane Bern. Néanmoins, force est de constater que dernièrement, notamment sur sa chronique du dernier mot, il a manqué d'audace. Hein, on le disait, il a refusé l'autre jour de prononcer au micro ces expressions un peu triviales qui signifiaient aller à la selle, alors que pourtant, Stéphane est comme tout le monde. Il doit bien lui arriver de temps à autre de...
Couler une dalle.
Eh bien voilà, quand vous voulez, Stéphane, l'abcès est enfin crevé. Il nous fallait une émission sur l'audace pour que ça arrive. Stéphane, votre mot de la fin est-il aussi audacieux?
Avant d'expliquer les origines d'une expression millénaire devant vos yeux et surtout vos oreilles attentives plutôt, et éveillées, laissez-moi citer ces quelques mots d'un poète belgo-portugais que j'adore, je la cite de mémoire. C'est quand même bien une prune, les brunes ne comptent pas pour des prunes.
Je crois avoir reconnu cette poétesse. Oui,
bien sûr.
Lio. En tout cas, seules les mauvaises langues peuvent dire que votre mot de la fin compte pour des prunes, Stéphane.
Oui, alors d'où vient cette expression? Au passage, on embrasse Lio. Eh bien, au XIIe siècle, Louis VII est chaud comme une baraque à fric pour croiser le fer dans la ville d'Édesse, située actuellement en Turquie. Oui, il partait faire la croisade. Quand l'abbé de Clairvaux décide de cette nouvelle croisade, le roi de France veut immédiatement prendre la route pour la Terre Sainte. Bon, ça sera la loose totale. Hein. L'empereur byzantin, qui devait lui prêter main forte, se rétracte. Son allié germanique Conrad III subit une lourde défaite contre les Turcs. Louis VII refuse l'aide de Raymond de Poitiers. Bref, la croisade est un total désastre. On ne rapporte rien. Sauf que l'histoire retiendra aussi qu'une nouvelle variété d'arbres est rapportée à l'occasion de cette aventure. Des vergers de Damas, ils ramènent des pruniers. Quelque part donc, ils n'auront pas combattu pour rien, mais pour des prunes. Maigre consolation ou révolution fruitière, je laisse à chacun se faire une opinion. Mais voyez donc, on a combattu pour des prunes.
Alors ça veut dire pour rien, mais en fait c'est pas pour rien puisqu'on a des prunes.
Mais oui,
en Russie
oui,
à la place de.
Oui. C'est presque paradoxal comme expression.
Ça veut dire le contraire.
Oui, c'est paradoxal. Oui. Mais c'est
ça a dévié du sens originel.
Et Dieu sait que c'est bon les prunes.
Et oui, surtout les rhinoclottes.
Mais pas enfin, que les
ou les couettes, pas seulement. Et puis d'ailleurs, on dit aussi travailler pour le roi de Prusse et ça veut dire absolument la même chose. En Russie, à la place de pour des prunes, on dit pour un merci du tsar, qui ressemble à travailler pour le roi de Prusse, voyez-vous. En Grèce, il y a l'expression le trésor était du charbon. Hein, on voit l'idée. En néerlandais, for the cat in coot, pardon pour les oreilles chastes. Pour le cul du chat.
Bien évidemment.
On a travaillé pour le cul du chat.
Vous l'avez compris. Oui. Eh bien, écoutez, oui. Stéphane, on va se coucher moins bête, une fois de plus, ce qui n'était pas difficile, en ce qui concerne certains.
C'est un peu tôt quand même.
C'est avec. Vous savez, moi, je suis vieux avant l'heure. Je ne fais pas de vieux os après l'émission.
Un velouté de souffleur et au lit.
Un velouté de souffleur et ensuite une prune, hein, parce que les temps sont durs, il faut se restreindre, et ensuite au dodo. C'est avec beaucoup d'audace que je vous le dis, les amis, oui, cette émission est terminée. Mais si, mais séchez vos larmes, car nous revenons demain. En attendant, Stéphane, lequel de nos audacieux de l'histoire vous aura le plus marqué aujourd'hui ? Danton, Alain Robert, le Spider-Man français, ou celle qui fut votre première petite amie, Louise Weber, dite la Goulue ?
Ah, bah oui, j'ai une tendresse particulière pour la Goulue. Hein.
Mais oui, mais ça, c'est des raisons
allez,
très personnelles.
Paye ta tournée.
Oui, ça vous a plu. Hein. Vous auriez osé parler comme ça au futur roi d'Angleterre ?
Non, mais j'avais pas un cœur brodé sur la fesse arrière de mon pantalon.
Est-ce que vous connaissez déjà le problème qui nous attend demain, Stéphane ?
Oui, absolument, Mathieu. Demain, à l'occasion du 150e anniversaire de la mort d'Alexandre Dumas, on réunit trois personnages de Dumas qui ont existé en vrai.
Ah.
D'Artagnan, le comte de Monte Cristo.
Ah oui, et Isabelle Adjani qui a incarné la reine Margot et qui l'est un peu en réalité aussi, vous allez voir.
Bah, il est temps de se dire...
Au revoir.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.